Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, il ne vous a pas échappé qu'il y a un ordonnancement magnifique des fêtes, car depuis la Pentecôte, depuis que nous sommes entrés, nous avons reçu de nouveau les dons du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes en mesure, en quelque sorte, de pénétrer très avant dans le mystère de Dieu. Car nous sommes capax Dei, nous sommes capables de comprendre quelque chose de Dieu. Après la Pentecôte, il y a eu la Trinité, nous avons contempler l'intérieur même de Dieu, puis comment il se donne à nous dans le Saint-Sacrement. La semaine dernière, nous avons fêté son Sacré-Cœur, c'est-à-dire comment ce Saint-Sacrement, en quelque sorte, se conjoint à mon humanité. Et maintenant, je retourne de nouveau au Christ, de ce Sacré-Cœur d'où il coula du sang et de l'eau. C'est le même évangile que la semaine dernière. Je suis invité à contempler la valeur de ce sang. Alors, je vous propose de le voir en deux parties. D'abord, les raisons de l'incarnation du Christ, qui est une des pointes de cette fête du sang du Christ. Et puis, d'autre part, l'œuvre accomplie par ce sang du Christ. Tout d'abord, l'incarnation du Christ. Pourquoi faut-il faire ce détour? Au XIIe siècle, ça nous remonte un peu loin, mais il y avait un débat très important qui, en quelque sorte, est redevenu actuel. Il s'exprimait ainsi, « Si utrum homo non peccasset, ubi Deus se incarnasset ». Alors, vous avez tout compris, ça fait beaucoup de latin, mais je vais quand même vous le traduire. « Si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Dieu se serait incarné ?» Alors, c'est une question scolastique. Le but est de savoir pourquoi Dieu s'est incarné. C'est ça la question. Et pourquoi la question se pose? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que vous pouvez penser que, évidemment, le Seigneur est venu pour nous sauver, mais aussi pour nous diviniser, pour nous rendre participants de sa nature divine, comme on le dit souvent. La vraie question, si on dit si l'homme n'avait pas péché, est-ce que le Seigneur se serait incarné? C'est de savoir le motif de l'incarnation. Parce que la raison pour laquelle quelqu'un vient chez vous, bah, c'est la raison qu'il vous faut découvrir. Si je viens chez vous parce que je compte être invité à dîner, ou si je viens chez vous parce que je fais la quête pour je ne sais quoi, bah, c'est pas la même chose. Si je viens chez vous parce que je suis l'inspecteur des impôts et que je viens faire des relevés fiscaux, c'est pas la même chose. Donc il faut savoir pourquoi le Seigneur est venu jusqu'à nous. Alors, on est remonté au XIIe siècle, maintenant je vais remonter à la création. Adam et Ève. Adam et Ève, avant le péché originel. Est-ce que s'ils n'avaient pas péché, ils auraient été divinisés? Eh bien oui. Parce qu'ils avaient été créés dans l'ordre de la nature, avec les grâces nécessaires pour arriver jusqu'à Dieu. Mais il n'eût pas été besoin que le Seigneur s'incarnât. Pourquoi? Parce que si vous dites que c'était nécessaire, ça veut dire que la création de Dieu n'était pas parfaite et que l'homme ne pouvait pas parvenir à Dieu sans l'incarnation. Ce qui a motivé l'incarnation, c'est le péché. Alors je vais redescendre, hein, je suis dans les hauteurs théologiques. C'est important parce que sinon vous dites qu'en quelque sorte Dieu a eu besoin du péché. C'est lui qui l'a prévu dans son plan. Non, le Seigneur n'a pas prévu le péché. Le Seigneur n'a pas de collusion avec le mal. Le Seigneur n'est pas complice avec le mal. Le Seigneur fait malgré le mal. L'amour que vous portez à vos enfants ne prévoit pas qu'ils vont faire des bêtises, ne prévoit pas qu'ils vont vous décevoir, ne prévoit pas qu'ils vont vous faire de la peine. J'ai pris les enfants, mais ça marche partout, hein, dans un couple, dans une communauté. Vous ne prévoyez pas ça, mais votre amour passe par-dessus, ça s'appelle le pardon, et fait malgré le péché. Alors, en pratique, ce que je vous dis là, c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin. Le grand débat au XIIe siècle entre saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin. Saint Bonaventure dit, voilà, si l'homme n'avait pas péché, eh bien, le Seigneur se serait incarné quand même pour le diviniser. Eh bien non, dit saint Thomas. Et c'est ce qu'a retenu l'Église. Si l'homme n'avait pas péché, Dieu ne se serait pas incarné. Ça veut dire que le péché, qui est un mal, nous vaut du bien. Est-ce que vous avez déjà pensé, quand vous allez vous confesser, que c'est exactement ce qui se passe ? Quand vous allez vous confesser, vous avouez le mal. Et qu'est-ce que ça vous vaut ? Du bien. Dieu, par-delà le mal, comble votre âme de bienfaits. C'est-à-dire que, parce que vous reconnaissez votre péché, parce que vous l'exposez, vous le remettez à Dieu, Dieu va vous donner du bien. Alors c'est extraordinaire. Comment c'est possible que le mal se transforme en bien ? Eh bien, c'est le fruit du rachat qu'a opéré le Christ. Alors ça, c'est pas très à la mode. Pourquoi je vous dis que cette doctrine est de nouveau... On n'aime pas trop parler de la mort du Christ, finalement. Il est venu, le Seigneur, pour nous apporter la vie, et c'est vrai. Il est venu pour nous diviniser, et c'est vrai. Mais il est venu pour nous racheter. Il a offert un sacrifice. Le Seigneur n'est pas juste venu nous faire coucou. Excusez-moi de la vulgarité, mais c'est ce qui se passe dans la tête de beaucoup de gens, de catholiques. Hein. Oui, le Seigneur, bon... Ce qui est central, c'est la croix du Christ. C'est la croix du Christ éternellement dressée sur le monde, qui ne change pas, elle. Voilà le centre de notre foi, l'incarnation, la rédemption. Le Seigneur n'est pas venu nous dire bonjour, le Seigneur n'est pas venu améliorer un peu les choses ou nous permettre, je ne sais pas quoi, de vivre mieux. Non. Le Seigneur est venu nous sauver. C'est quelque chose. N'oubliez jamais cette question centrale. Et pour ça, il nous a rachetés parce que nous étions perdus. D'ailleurs, sans le Christ, vous allez mourir. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Hein. Sans le salut apporté par le Christ, vous allez à votre perte. Aucun salut en dehors du Christ. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas chrétiens ne seront pas sauvés. L'exercice de leur conscience droite, c'est déjà la participation au Christ qui est le bien. Mais il n'y a pas de salut en dehors de Dieu. Rappelez-le, et ce salut, il nous a été donné parce que nous sommes rachetés. Bienheureux sommes-nous, bienheureux pécheurs qui sont rachetés. Bienheureuse faute qui nous a valu un si grand rédempteur, avez-vous chanté à la veillée pascale ? N'oubliez jamais que nous sommes des rachetés, c'est-à-dire que le Christ a payé notre rançon, et la rançon, c'est la rançon du mal, car le mal a une emprise sur nous en raison du péché originel et de notre propre péché qu'on appelle actuel. Le Seigneur a donc offert un sacrifice. Si le mot rachat n'est plus à la mode, le mot sacrifice, on ne veut pas en entendre parler. Parce qu'on ne veut pas se reconnaître débiteur de Dieu. C'est une erreur. Nous sommes les débiteurs du Seigneur. En venant prier ce matin, vous n'avez pas fait une super action parce que vous êtes des super bons chrétiens, etc. Non, pas du tout. Vous rendez gloire à Dieu et à Dieu appartient toute la gloire. Vous ne faites que ce qui est bon. Et c'est bien, ça vous vaudra du bien. Mais pas parce que vous êtes géniaux. Parce que simplement nous faisons ce à quoi Dieu nous appelle. Le sacrifice que Dieu a offert, il se l'est offert à lui-même à travers l'humanité du Christ. Voilà pourquoi c'est un vrai sacrifice. Voilà pourquoi c'est un sacrifice éternel. Et c'est ma deuxième partie. L'œuvre de la rédemption, par chance, dans cette fête du précieux sang, nous le voyons, continue de se répandre sur nous. Que s'est-il passé ? Quand le Seigneur a été crucifié, qu'il est mort sur la croix, son sang a coulé. Alors je cherche, mais je vois plusieurs croix dans cette église, mais je ne vois pas ce que je cherche. Il y a parfois, notamment dans les grands crucifix comme celui qui est à ma droite, vous avez déjà vu parfois une tête, un crâne et deux tibias. En dessous du crucifix. À qui sont-ils ? Eh bien, c'est le crâne d'Adam. C'est le tibia d'Adam et Ève C'est-à-dire, symboliquement, ce sang a coulé sur l'humanité déchue. Car le Seigneur est venu racheter les hommes depuis la création du monde. Nous le représentons comme ça en Occident, en Orient, on représente le Christ sortant des enfers en tenant à droite et à gauche la main d'Ève et d'Adam. Symbole de toute l'humanité. Alors, oui, le sang du Christ a coulé sur tous les hommes de tous les temps. Comment c'est possible ? Mais c'est parce que le Seigneur est éternel. C'est parce que l'action qu'il a inscrite une fois pour toutes dans le temps, il a passé à travers cette tente plus grande. Cette tente, c'est le rideau du temple d'Israël. Et derrière, il y a le Saint des Saints, le sanctuaire, la Shekinah, là où Dieu habite. C'est pour ça qu'il y a un... Ah, il n'est pas encore sur le... C'est pour ça qu'il y a un voile sur le calice. Le voile du temple. Et dans un instant, je vais l'enlever. Je vais dévoiler les mystères du Christ à vous qui êtes venus en vivre. Car ce mystère célébré une fois pour toutes, parce qu'il était parfait, parce que c'est un sacrifice offert par un Dieu, parce que c'est un sacrifice éternel, eh bien dans un instant, ce sacrifice va se rendre présent. La messe, avez-vous appris au catéchisme, c'est le renouvellement non sanglant de la croix du Christ, du sacrifice du Christ. Le mot renouvellement prête à confusion de nos jours. Le Concile de Trente qu'il a utilisé, l'employait dans une parfaite acception. Renouvellement, c'est rendre nouveau ce qui existe. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes rendus participants de cette nouveauté. Parce que le Seigneur, il est éternellement nouveau. Il n'est ni vieux ni jeune, il est éternel. Il est sorti de l'espace-temps. D'abord, il n'y a jamais été. Il s'y est enfermé, peut-être dans l'incarnation, mais il n'y est pas soumis, c'est sa création. Et donc ce sacrifice éternel, dans un instant, sera rendu présent, réactualisé, peut-être on pourrait dire aujourd'hui, dans le sacrifice de la messe. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à opérer votre dévotion, c'est-à-dire à accorder votre cœur au sacrifice que le Christ fait pour vous. C'est pourquoi il y a une croix sur cet autel. Vous le savez, ce n'est pas un repas qui nous sauve. Le repas est le support de la mort du Christ qui nous sauve. Voilà pourquoi c'est le saint sacrifice de la messe, dont le signe est le repas pascal. Alors, dans un instant, vous allez de nouveau venir au pied de cet autel. Vous allez commettre un acte spirituel, comme l'a fait celui du Christ qui, éternellement et spirituellement, c'était plus un sacrifice de bouc et d'agneau et de taureau, c'est un sacrifice spirituel dans le Christ, spirituel donc réel, hein, donc charnel, et c'est pourquoi ici ce sacrifice est spirituel, donc réel, donc charnel, et donc vous allez communier au corps et au sang du Christ. Je l'ai bien dit. Au corps et au sang du Christ. Alors, c'est ma conclusion. Peut-être me direz-vous, monsieur l'abbé, pourquoi n'allez-vous pas vous proposer la coupe du salut, mais seulement le pain de vie ? Eh bien, c'est parce que ça manifeste notre foi, que dans chacune des parcelles, comme le dit saint Thomas d'Aquin, du pain comme du vin, se trouve toute l'humanité, toute la divinité, tout le corps et tout le sang du Christ. En communiant soit au sang, soit au corps, vous communiez au Christ vivant éternellement. Vous n'avez pas besoin de communier aux deux, comme le font les protestants, qui pensent, mais ils sont logiques dans leur esprit, qu'ils ne font que refaire le geste du Christ et que ce n'est qu'une mémoire. Alors si c'est une mémoire, il faut effectivement tout refaire. Il faut refaire. On devrait d'ailleurs être assis autour d'une table et puis refaire le geste. Car les protestants qui célèbrent la Sainte Cène ne vont pas, en tout cas pour les réformés, les luthériens c'est plus compliqué, ne vont pas jusque à croire, et c'est là leur erreur, que ce repas est le support de la présence réelle du Christ sur la croix qui nous sauve. Alors donc, pour manifester votre foi dans la présence substantielle du Christ dans chacune des parcelles, vous ne communierez que sous une seule espèce. C'est moi qui fais mémoire, qui rend présent, et vous. Vous communiez à cette présence, vous n'avez pas besoin de communier aux deux espèces. Ça ne serait pas un péché, c'est la manifestation de notre foi. Si l'un de vous était allergique au pain, je lui donnerais la communion au sang. Voilà le grand mystère qui va s'opérer une fois de plus, mais bien, chers frères, la présence du Christ se fait parmi nous et nous allons pouvoir nous y associer. C'est maintenant que nous sommes sauvés, c'est maintenant que commence notre divinisation. Ainsi soit-il.